sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je n'ai pas besoin de vous présenter Madame Hélène Carrère-Dancos, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui nous fait l'amitié de venir conclure avec nous cette série d'entretiens aujourd'hui. Il y en aura d'autres demain, vous le savez. Et le sujet que vous nous proposez, tout à fait dans le droit fil des sujets précédents, c'est la Russie et l'Europe. Je vous en prie.
Merci beaucoup. Alors, si vous le permettez, nous avons décidé ensemble que je commencerai par une petite introduction. Moi, je vous parlerai, non pas de la Russie et l'Europe aujourd'hui, ça sera notre entretien, mais je vais vous dresser, au fond, le tableau historique de ce problème, car c'est un problème fondamental. La question, est-ce que la Russie est un pays européen ou est-ce que l'Europe fait partie de l'identité russe, est une question qui court, je dirais, toute l'histoire russe, et d'une certaine façon qui pèse sur l'histoire européenne depuis au moins depuis l'an 1000. Au XIe siècle, le roi Henri Ier de France a épousé une princesse de Kiev. À ce moment-là, je dirais que c'est à ce moment-là, ça montre que la Russie était un pays d'Europe, que qu'un roi de France aille chercher sa femme dans ses pays extrêmement lointain, témoigne, et il n'y avait pas que lui, le roi de Norvège avait été cherché, le roi de ces pays situés au nord de l'Europe était allé chercher épouse aussi à Kiev, c'est-à-dire que Kiev était une principauté. Kiev, c'est le berceau de la Russie, il faut bien le dire. Même si aujourd'hui ça pose quelques problèmes, mais ça c'est une autre question, on y viendra plus tard. Et le fait que des souverains européens au XIe siècle cherchaient, qu'il y avait des alliances matrimoniales avec les filles du puissant souverain de Kiev qui était le prince Sviatoslav, montre que c'était pour l'Europe, c'était une partie d'elle. Il y avait une raison à cela d'ailleurs. La christianisation de la Russie, c'était le choix de Byzance, mais Byzance... c'est l'un des deux poumons de la chrétienté, ça la faisait rentrer dans notre monde chrétien, et ça n'a fait aucun doute à ce moment-là dans l'esprit des grands pays européens que la Russie appartenait à leur univers culturel, à leur univers mental, même si géographiquement elle était relativement difficile à atteindre. Et c'est vrai qu'il y a à cette époque-là très peu de circulation jusqu'à ces confins éloignés, si ce n'est que tout de même quelques voyageurs curieux se sont aventurés par là, enfin tout ça, et je dirais quelques marchands s'aventuraient par là. Cette Russie européenne, enfin ce qui est la base de la Russie future, a été arrachée à l'Europe au XIIIe siècle. Elle a été arrachée à l'Europe par l'invasion mongole, 1240, L'invasion mongole a été une catastrophe pour la Russie et sa pénétration en Russie a été une chance pour le reste de l'Europe parce que la Russie était un pays immense, il y avait un espace immense et évidemment, d'une certaine façon, ça a arrêté l'envahisseur. Il est allé jusqu'à l'actuelle Hongrie, mais enfin pas beaucoup plus loin, mais il s'est surtout installé là et du même coup, l'Europe occidentale en a été préservée. Mais pour la Russie, ça a eu des conséquences dramatiques, puisque cette pénétration mongole l'envahisseur de Kiev était un petit-fils de Genghis Khan, Batou, qui était musulman, c'est-à-dire que c'est à la fois la civilisation mongole, l'héritage de Genghis Khan, et un héritage asiatique, et l'islam, deux éléments totalement étrangers à cette Russie qui avait découvert la chrétienté au IXe siècle, et qui s'est trouvé avec un envahisseur extraordinairement puissant et décidé véritablement à imposer sa marque civilisationnelle. Cette domination mongole a duré 3 siècles. Alors, elle a eu plusieurs conséquences. D'abord, qu'une partie de la Russie s'est déplacée géographiquement. Il y a la fuite d'un certain nombre de princes vers le nord du pays, où il y avait des forêts, où on était un peu plus à l'abri de cette puissance mongole. Donc il y a une espèce d'extension du territoire, de l'espace russe, extension vers des pays qui sont puissants. La Pologne, le royaume de Pologne et Lituanie, qui constitue la plus puissante barrière que ces Russes ont rencontrée en arrivant, mais pas seulement eux, et dont la Suède. Tout cela a constitué déjà une espèce de choc de civilisation. Si je dis ça, c'est parce qu'on va retrouver ce problème au XXIe siècle, hein, avec la Russie moderne, la nouvelle Russie, et l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle est organisée et rassemblée. Alors, dans ces 3 siècles pendant lesquels la Russie a été coupée de l'Europe, l'Europe connaît alors, il y a véritablement l'épanouissement médiéval, la Renaissance, enfin, il y a une transformation européenne tout à fait extraordinaire, une ouverture européenne, et pendant ce temps-là, la Russie est repliée sur elle-même. Alors, autre conséquence, c'est que tout de même, il y a eu un déplacement politique qui va conduire vers Moscou, vers ce qui devient le centre politique, et ce qui sera le centre politique du pays, qui finira par s'affirmer au XVe siècle, c'est-à-dire le déplacement se fait de Kiev vers ce cœur de la Russie. Et il y a des bonnes raisons. D'abord parce que, au fond, il y avait des petits princes dans toutes ces régions, dans cet espace immense. Ces petits princes tiraient leur autorité. Ça, c'est très intéressant, si on se souvient de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale et la domination allemande. Ils tiraient leur puissance de celle que leur conférait. Ils payaient tribut au Khan mongol, mais ils tiraient leur puissance ou leur légitimité de la reconnaissance que leur accordait l'occupant. C'était tout à fait significatif. Et le prince de Moscou est celui qui a fini par rassembler, je dirais, le plus d'autorité. D'abord parce que ce qui va devenir Moscou, qui était une toute petite bourgade, se trouve au cœur de 3 fleuves dans une zone, dans cet espace immense. Les fleuves sont la voie de circulation la plus sûre et la plus commode, et ça c'est absolument nécessaire. En plus, il avait été assez adroit pour obtenir la protection de l'occupant et qu'il a soutenu contre les petits princes. Et en définitive, au moment où va s'achever la domination mongole, c'est à Moscou que se situe déjà, c'est-à-dire dans ce qui est la Russie contemporaine, que se situe déjà le cœur de cet espace. Alors là, ça s'est achevé. Là, on peut dire que la fin de l'occupation mongole a commencé au XVe siècle, à partir de 1480, avec un souverain qui était au XIVe siècle, dès 1380, avec Ivan III. Et là, nous retombons sur la christianisation de la Russie, car Ivan III avait épousé Sophie Paléologue, une nièce du dernier empereur de Byzance, et c'est très important, il en a tiré une légitimité en se posant comme l'héritier de Byzance. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, il a été le premier à essayer de repousser véritablement les Mongols. C'est un processus qui s'est achevé avec Ivan IV, son petit-fils. Ivan IV, c'est Ivan le Terrible, qui était dans la première partie de son règne, a été un homme tout à fait remarquable et, je dirais, hanté par un esprit modernisateur et ouvert vers l'Europe, avec l'idée de regagner l'Europe. Ivan le Terrible, vous allez vous dire que je suis un petit peu étrange de faire son éloge comme ça, mais juste pour préciser les choses, il a eu un règne coupé en deux parties. La première partie, c'est un homme plein d'enthousiasme, parce qu'il réussit, il a pris Kazan, qui est le cœur de la domination des Mongols, qui s'appellent des Tatars d'ailleurs, ces Mongols islamisés. C'est le cœur de leur domination. La prise de Kazan, c'est l'indépendance reconquise. Et il a véritablement voulu moderniser son pays. Et il est arrivé, parfois l'histoire bute sur des petits faits. Il avait une femme qui était tout à fait remarquable apparemment. Elle est morte. Et est-ce cela qui l'a rendu fou? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, la seconde partie du règne est celle d'un tyran épouvantable. Il a d'ailleurs assassiné son fils, vous savez, il y a le tableau où il lui enfonce un pieu dans le cœur. Mais c'est tout de même le libérateur du pays dans la première partie. C'est aussi l'homme qui s'intéresse à l'Europe, qui essaye déjà d'envoyer des gens en Europe, il faut véritablement renouer immédiatement le lien. Et on peut dire qu'à partir du XVIe siècle, pour la Russie, le problème, c'est comment entrer en Europe, comment faire comprendre à l'Europe qu'elle est là, qu'elle existe. Elle a eu la chance d'avoir, évidemment, à partir de là, un très grand souverain. Bon, il y a eu le temps des troubles, je ne vais pas vous faire l'histoire de Russie, on n'est pas là pour ça. Il y a eu des troubles épouvantables avec les faux souverains, les faux Dimitri, ainsi de suite. Mais tout arrive avec une nouvelle dynastie au XVIIe siècle, en 1613, les Romanov. Et au fond, l'histoire de la Russie, ce que je vais essayer d'évoquer dans les rapports de la Russie avec l'Europe, c'est le règne des Romanov, c'est-à-dire 1613-1917. Des souverains qui tiennent véritablement le pays pendant trois siècles, avec un principe, ce qui est très intéressant aussi, c'est une dynastie qui n'a pas connu de grandes tragédies jusqu'à la fin du règne, jusqu'au XXe siècle. Il n'y a pas eu de rupture, la Révolution française n'a pas eu d'effet là-dessus, etc. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose. Et elle a réussi, cette dynastie a réussi à régner avec un principe fondamental, c'est l'autocratie. C'est ce qui lui paraissait, et je crois que c'est ça, il faut le comprendre, parce que quand on veut comprendre les rapports de la Russie avec l'Europe, il faut comprendre que ce pays qui est sorti d'une domination étrangère, qui se tourne vers l'Europe, il a tout de même une histoire qui est très spécifique, qui est marquée par le constat, d'abord, que la Russie est un pays qui a été envahi, dont l'histoire a été coupée par l'invasion, donc qui doit construire un État fort, et ça a été la première grande leçon, je dirais, que tous les premiers souverains, Pierre le Grand et le troisième souverain Romanov, ont tiré de leur passé. Deuxièmement, qu'ils ont déjà, à cette époque, à l'époque de Pierre le Grand, un espace immense. Il y a déjà 5 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, c'est un espace beaucoup plus important, c'est le plus grand espace territorial du monde, mais c'est déjà un État immense. L'État immense, la conclusion, c'est qu'il faut tenir le pays. Et pour Pierre le Grand, ce troisième souverain Romanov, il arrive après le premier Romanov qui rétablit le pays après tous les troubles et qui a eu tellement peur de ce pays troublé qu'il a décidé de le fermer au monde extérieur. Enfin, c'était un peu l'héritier de ces siècles de domination étrangère. Mais dès le père de Pierre le Grand, l'idée s'installe qu'il faut évidemment marcher vers l'Europe. Et marcher vers l'Europe, ça veut dire... Les souverains Romanov ont très tôt compris que la Russie avait raté toutes les transformations, tout l'épanouissement européen qui s'était déployé pendant ces siècles où la Russie était absente, où elle était en dehors de la civilisation européenne. Donc la question qui se pose dès ce moment-là, c'est comment rattraper le retard, comment se faire accepter par l'Europe en ayant un visage européen et un système européen, celui qui va véritablement apporter une réponse à cette question, c'est Pierre le Grand. Et alors c'est là que je vais m'arrêter une seconde, parce que Pierre le Grand a un héritage très compliqué. Bon, il a voulu ouvrir la fenêtre sur l'Europe, comme il disait. Ça, c'est la première chose, et les guerres lui ont permis de prendre une position sur les bords de la Baltique. La Russie était un pays enclavé, sans accès aux mers. La Baltique était occupée, là encore, on retrouve les grands voisins, la Suède, à côté le royaume de Pologne-Lituanie, tout ça était assez, je dirais, hostile à la Russie. Par une série de guerres, Pierre le Grand a réussi à vaincre les Suédois, la guerre avec Charles XII, tout le monde connaît ça, et il a déjà ouvert cette fenêtre sur l'Europe. Mais surtout, pour lui, ce qui était fondamental, c'est apprendre de l'Europe. Il a envoyé des envoyés en Europe, il a fait cette chose extraordinaire qui était la grande ambassade. Il s'est rendu en Europe, ce souverain à peine couronné et qui sortait de... La Russie est pleine de coups d'État, de complots, etc., et de gens qui sont assassinés. Ça n'a pas empêché l'autocratie de durer. Et Pierre le Grand, ce jeune souverain, a décidé, à peine installé sur le trône, de se rendre en Europe à la tête d'une grande ambassade, sans dire qu'il était Pierre le Grand, vous qu'il était Pierre Ier, et anonymement, pour apprendre de l'Europe. Il a décidé de partir pour 2 ans. Il est resté 18 mois. Bon, c'est absolument extraordinaire. Il a été reçu partout. Il y a un petit échec en France. C'est une autre affaire, ça. Mais, et c'est très important, si c'est pas par hasard que le président Macron a voulu recevoir Poutine à Versailles. Parce que quand Pierre le Grand s'est promené en Europe, dans cette grande ambassade, c'était tout à fait extraordinaire, parce qu'il s'est rendu sur les chantiers en Hollande, aux Pays-Bas, pour apprendre ce qu'était la marine, comment on construisait des bateaux. Il s'est rendu, il est allé dans tous les labos, je dirais, dans tous les lieux scientifiques en Allemagne. Il a fait toute l'Europe, sauf cette France, car, au fond, Saint-Simon le dit, il n'était pas désiré. Pour la France, c'était un pays un petit peu sauvage. La France, c'était tout de même le plus grand pays, l'arbitre des élégances européennes à cette époque-là. Et du coup, il n'a pas pu venir. Mais il sera invité plus tard, presque 20 ans plus tard, par le régent. Et invité là, il est reçu royalement, tout à fait remarquablement. Ça a été, et c'est là qu'il est allé à Versailles. C'est l'origine de la promenade, de la rencontre Macron-Vladimir Poutine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet homme a véritablement réussi à percer cette barrière qui séparait la Russie de l'Europe, non pas que l'Europe l'accepte. L'Europe a été très intéressée par lui, un peu effrayée parce que, après tout, c'était un guerrier assez inquiétant, hein, mais il a fait venir, et c'est fondamental, il a fait venir le maximum de spécialistes, d'artisans, de tout ce que l'on voudra, de gens qui avaient un savoir de tous les pays européens. Une fois encore, la France a renaclé à ça. On n'a pas trouvé que c'était très utile d'en envoyer dans ce pays de sauvages. Mais lui l'a fait. Et ça se crée déjà une civilisation européenne à l'intérieur de la Russie par cet apport d'Européens, beaucoup plus que par sa présence a beaucoup impressionné l'Europe. Mais on ne peut pas dire qu'en sens inverse, l'Europe ait accepté la Russie pour autant. Mais là, en Russie, il y a un fonds européen, un fonds d'étrangers qui est installé. Alors, dont la situation est gênée par le fait que les voyageurs qui, à cette époque-là, se promènent en Russie, rapportent des récits absolument épouvantables en racontant que c'est un pays où on s'entretue, où les gens sont des sauvages absolus, des barbares. C'est-à-dire que pour l'opinion européenne, c'est un pays inquiétant. Mais les Anglais, qui sont des grands commerçants, monsieur Trichet, ne sera pas étonné, qui ont le sens de l'économie, de l'importance des échanges économiques, eux, ils se comprennent tout de suite que le commerce, c'est fondamental et que par conséquent, créer des liens commerciaux, c'est le meilleur moyen de traiter avec ce pays. Ça a été le moment véritablement d'une transformation russe. Pierre le Grand a voulu apporter les mœurs européennes en Russie, au point que les Russes avaient, des vêtements traditionnels, des barbes, etc. Il coupait les barbes, il interdisait l'habit traditionnel. Il a véritablement importé, tous les aspects extérieurs de l'Europe en forçant la société à l'accepter. Et c'est très important pour la suite de l'histoire. Parce que la question qui se pose, au fond, les Russes étaient assez... les peuples russes étaient ignorants. Mais en même temps, cette idée d'Europe, c'était le monde qui était au-delà de l'envahisseur qui les avait dominés. Mais ces innovations ne leur plaisaient qu'à moitié. Ça a heurté la société. Et la question que l'on peut se poser, sur laquelle les historiens débattent depuis tout le temps, est-ce que européaniser un pays comme il l'a fait, emprunter à l'Europe son modèle politique, son modèle économique, ses modes de gouvernement? Et il l'a fait par force, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord dans ceux qui l'entouraient, il risquait la peine de mort, c'est tout. Est-ce qu'on peut transformer un pays par la force et par en haut, c'est-à-dire par la volonté de celui qui gouverne? Il a créé un État puissant, il n'y a pas de doute, un État qui est une imitation européenne, avec des modèles, sauf l'autocratie était beaucoup plus forte qu'ailleurs. Mais est-ce qu'il a réussi à transformer les mentalités du pays en imposant tout ça par la force et à marche forcée, véritablement à une allure extraordinaire? Est-ce qu'il eût été raisonnable d'aller plus lentement? Un homme comme Solzhenitsyn, qui est un esprit remarquable, a beaucoup réfléchi là-dessus, et dit qu'il faut en vouloir à Pierre le Grand, parce que malgré tout, si notre pays après n'a pas pu évoluer, c'est parce que ce choc civilisationnel a été pour lui quelque chose de terrible. Donc, si vous voulez, ça pose toute la question. C'est une question qui dépasse la Russie. C'est toute la question de la transformation des pays qui ont un retard à rattraper.
Atatürk en Turquie est
absolument
un autre exemple qui rejoint très bien.
Et aujourd'hui, avec un contre-coup, tout à fait, je suis bien d'accord avec vous.
Vote.
Si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça a été quelque chose de... C'est une question historique qui n'est pas réglée. Mais il est clair que, malgré tout, il y a une européanisation de la Russie qui a été opérée. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, après Pierre le Grand, les choses ont été beaucoup plus simples. Il a été suivi par des souverains. Il y a eu tout ce qu'on veut, mais tous les souverains de la dynastie Romanov ont considéré qu'ils étaient en Europe. Et il y avait ceux qui avaient une passion, je dirais, pour ce qu'était l'Europe intellectuelle et tout ça. Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui a importé la langue française et les modes françaises. Catherine II, c'était les Lumières qu'elle a importées. Alexandre Ier, l'adversaire de Napoléon, c'était l'adversaire de Napoléon, mais pour lui, vaincre Napoléon, c'était... D'abord, il a été fasciné par Napoléon avant d'être l'adversaire de Napoléon, il n'y a pas de doute. Ça a été aussi le modèle européen. Et c'est en Europe qu'on entrait par les guerres, par tout cela. Et ça a duré jusqu'à la fin de la dynastie Romanov. C'est ça que je voulais dire. Ce qui dure, c'est que l'Europe est là, mais qu'en même temps, se pose le problème de fond. C'est-à-dire, est-ce que la Russie a été transformée? Cette fenêtre ouverte sur l'Europe, la Russie, au XIXe siècle, là où, véritablement, la transformation européenne apparaît le plus clairement, c'est véritablement avec les derniers souverains de la dynastie Romanov, principalement d'ailleurs avec Alexandre III, qui a très mauvaise réputation chez nous, et nous avons le pont Alexandre III, mais qui a été l'homme de l'allié. C'est un homme qui a accepté, je dirais, l'histoire russe telle qu'elle était, avec deux idées fondamentales. D'abord, que la Russie avait un espace immense et qu'il convenait qu'il n'était pas utile de l'agrandir davantage, ce qui évitait les conflits avec les autres États, c'est-à-dire qu'il crée une paix, une véritable paix internationale. Bon, c'est une première chose. Les guerres n'ont pas été absentes, mais ce n'étaient pas des guerres de conquête. Et la seconde idée, c'est véritablement qu'il faut chercher une alliance en Europe, qu'il faut s'installer en Europe. Son alliance a été l'alliance française, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je voudrais ajouter que la France a toujours été... La France, c'est le grand pays européen de Louis XIV, et même un peu avant, au fond jusqu'à Sedan, il n'y a pas de doute. C'est le pays qui est le symbole intellectuel de l'Europe, le symbole de l'État puissant, de l'État épanoui, celui qui dicte véritablement un certain ordre européen. Et on peut dire que c'est sur ce modèle-là que tous les souverains russes se sont fixés. Alors, Alexandre III, lui, a conclu une alliance franco-russe, c'est-à-dire qu'il est allé très loin jusqu'à engager son pays, et il a réussi, c'est le premier qui a réussi à attirer l'Europe en Russie par un développement économique, cette fois-ci, et plus politique, un développement économique qui fait de la Russie une sorte d'Eldorado pour toute l'Europe. Les emprunts russes sont une invention tout à fait... Le développement russe fait que les Européens sont fascinés par ça, et principalement les Français. Et il y a véritablement une espèce de ruée vers la Russie, une ruée économique. Les entrepreneurs vont vers la Russie. La fin du 19e siècle et le début du 20e, c'est une sorte de Russie qui attire les Européens, tout simplement parce qu'elle paraît être le creuset d'une puissance militaire, car on la voit comme une puissance militaire croissante, malgré la guerre de Crimée est oubliée, et une puissance économique. Je vous rappelle que Tocqueville a écrit assez tôt qu'il y avait deux pays qui se profilaient dans l'avenir et qui se trouveraient probablement sur le même plan, les États-Unis et la Russie. Pour Tocqueville, c'était évident. Et cette comparaison montre bien que la mutation russe a l'air achevé, c'est-à-dire que la Russie apparaît comme un pays moderne. Ce que je voudrais dire, pour conclure cette introduction qui était un peu rapide, mais on ne va pas occuper tout le temps par ça, c'est que c'est vrai que quand on regarde en 1900, au début du XXe siècle, vous avez évoqué tout à l'heure 1905, c'est-à-dire au moment où les troubles révolutionnaires sous Nicolas II vont commencer en Russie, quand on regarde ce pays, c'est à la fois un pays qui a une allure européenne, on y parle essentiellement des langues étrangères, il y a un système qui reste politique, qui reste moins marqué par les événements qui ont marqué, les révolutionnaires qui ont marqué l'Europe par 1789, par 1848, etc. La Russie a réussi à échapper à ça. Donc le système politique hérité de Pierre le Grand est intact, ça c'est incontestable. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure, sous ce système politique, au fond, la mue européenne a été acquise. La révolution ne permet pas de répondre parce qu'elle a coupé court à cette évolution que Tocqueville avait déjà signalée, à cette transformation, je dirais, en puissance européenne, en puissance moderne de la Russie. Et la révolution arrivant dans un moment où la Russie au début du XXe siècle est véritablement dans un temps de développement économique remarquable. Le développement politique commence après la révolution de 1905 avec une marche vers une monarchie constitutionnelle timide, mais malgré tout, quelque chose sort de cette révolution. Et là-dessus, la révolution de 1917 a eu exactement le même effet que l'arrivée des Mongols, c'est-à-dire qu'elle a arraché la Russie à l'Europe. Alors, juste un dernier point, Lénine n'avait jamais imaginé aller faire la révolution en Russie, ce n'était pas son idée. Lui savait très bien, je ne suis pas un défenseur de Lénine, mais cet homme était intelligent, il connaissait son pays, même s'il n'y vivait pas, et il savait que ce pays n'était pas du tout mûr pour une entreprise révolutionnaire. Il se trouve que le hasard des choses a fait que la révolution a éclaté là, et qu'elle est restée là. C'est-à-dire que ce pays s'est trouvé, Lénine a pensé qu'elle se serait accrochée au train des révolutions européennes. En fait, elle s'est trouvée en position de locomotive en disant aux Européens « suivez-moi ». Il y a une inversion de l'histoire qui se produit en 1917 qui est tout à fait extraordinaire et qui est aussi à inscrire dans la mentalité russe. C'est-à-dire que dans la conscience collective, il y a eu longtemps, pendant des siècles, l'idée qu'il fallait rattraper. Et tout d'un coup, après la Révolution, un régime politique, le régime de Lénine, c'est du verbe, ce n'est pas une réalité. Mais le régime de Lénine dit aux Russes, nous sommes l'avant-garde de l'humanité et l'humanité doit nous suivre. C'est-à-dire que la Russie apparaît comme véritablement le moteur des transformations futures. Ce qui aussi s'inscrit dans la mentalité collective, ce qui aussi, 75 ans de régime communiste, où on a expliqué à une société qu'elle était l'avant-garde, ça contribue à créer des réflexes de vision compliquée avec le reste de l'Europe. Pour tous ceux qui ont été élevés dans le régime soviétique, le reste de l'Europe, c'était la partie du monde en retard. Voilà, alors.
Merci beaucoup pour cette présentation superbe et qui pose évidemment le problème sous tous ses aspects, à la fois les Russes tels qu'ils voient l'Europe et aussi les Européens tels qu'ils voient les Russes, parce que c'est évidemment dialectique, il y a une dimension dialectique avec du côté russe, du côté disons de l'Europe occidentale, je vais dire ça pour le moment, certaines bonnes consciences et par moments certaines formes de sentiment de supériorité culturelle ou de civilisation. Je vais y revenir. Et du côté russe, plutôt un complexe d'infériorité par moments, couplé avec une tendance messianique qui a été évidemment exacerbée après la révolution sous le programme de la révolution communiste mondiale, etc., mais qui préexistait sous une autre forme. Vous connaissez la fameuse formule d'un moine russe, je ne sais plus quand, Moscou est la troisième Rome et il n'y en aura plus d'autres. première Rome, c'est Rome, le deuxième, c'est Byzance, c'est Moscou, c'est la troisième Rome. Ce qui est très exactement ce que vous avez rappelé, la généalogie à la fois religieuse et en quelque sorte messianique aussi, n'est-ce pas? Bon. Alors c'est tout à fait passionnant de voir comment, je dis sentiment messianique pour couvrir les deux, s'est retrouvé après un passage absolument époustouflant et un changement de régime radical. Et en soi est un problème intellectuel complexe, lié ensuite aussi à un autre problème qui n'est pas exactement le même, mais qui est connexe. Quelle place les Européens reconnaissent-ils ou ne reconnaissent-ils pas aux églises orthodoxes ou à la religion orthodoxe dans l'espace européen? Et inversement, comment les différentes églises orthodoxes et leurs fidèles ont vu à travers l'histoire leur rapport à l'Europe? Les deux questions sont extrêmement mouvantes. Je me suis trompé une fois d'un an dans la date de la prise de Jérusalem, de Constantinople par les croisés en 2004. Enfin, je me suis trompé d'un an. C'était un colloque à Bucarest. Toute la salle m'est tombée dessus. Mais comment? Vous ne savez pas, ça c'est essentiel. Oui, la prise de Constantinople, je ne suis pas absolument certain que ça va troubler votre soirée tout à l'heure. Bon, mais c'est fondamental. Il faut comprendre cela, ce récit historique, et en même temps ce récit de complexe, ce récit de jugement culturel dialectique croisé. On en retrouve encore un exemple. Alors ça passionnait les diplomates occidentaux en général à Moscou dans les années 50. J'ai un peu connu, vous savez. Bon, d'une part, le régime était ce qu'il était. Il était évidemment totalitaire. Ça avait là-dessus aucun doute possible. Bon, pour les gens qui vivaient sur place comme étrangers. Bien. En même temps, je disais, mais il y a un effet modernisateur, qu'il le veuille ou pas, qui en fait les rapproche d'une certaine façon du monde occidental, européen occidental, par l'élimination, brutale certes, de tout un passé qui était parfois un pont avec l'Europe, parfois aussi un diaphragme, un frein, une barrière. Donc, je ne dis pas que cette vision que partageaient la plupart des diplomates, journalistes, observateurs, pas si nombreux que ça d'ailleurs, à Moscou dans les années 50, le régime est ce qu'il est, mais en fait il modernise le pays et à terme plus tard, permettra de faciliter un rapprochement en profondeur. À côté de ça, vous aviez une autre tendance, nous sommes en pleine guerre froide, et certains... dans beaucoup de pays européens, la France étant, et l'Italie. La France et l'Italie étant là une exception. Il ne faut jamais oublier la participation, vous avez cité les artisans allemands, il ne faut jamais oublier les artisans italiens qui ont construit beaucoup d'églises, à commencer par Saint-Basile, ce qui n'est pas exactement un type d'église à l'italienne, mais enfin, on leur a dit, écoutez, on aime bien les églises comme ça, je dis, on va vous le faire bien. Ou encore, si je me souviens bien, au monastère de la Trinité Saint-Serge, où une bonne partie des églises ont été construites par des Trinités Saint-Serge, que l'on a tendance à appeler ici le monastère de Zagorsk, ce qui, Madame Carrière d'Ancos et moi, nous fait bondir, car Zagorsk est un épouvantable bonhomme. Il se trouve que le monastère de la Trinité Saint-Serge est situé pour notre... à cause de nos péchés, dans un lieu fort mal nommé. Voilà, c'est comme ça que vous êtes d'accord avec cette formule. Bien, voilà. Non. Alors, la première question, peut-être encore antérieure, parce que chronologiquement, elle vient même avant. Quel est le rapport des églises chrétiennes d'Occident, après le grand schisme entre Rome et Byzance, avec les églises orientales, comme on dit, orthodoxes? Très complexe, question extrêmement complexe. Je dirais qu'il a fallu, attendre Vatican II, allons-y, hein, pour qu'en dehors de quelques milieux, disons, très au courant, très savants, très éclairés, cette barrière religieuse et psychologique, vous voudrez, soit franchie. Et les deux questions ont évidemment un rapport, parce que la devise de l'État russe, finalement, c'est autocratie, orthodoxie, narodnost, l'esprit national. Alors ça signifie, en un mot poli, que tous les peuples de cet immense empire russe, qui ne sont pas russes, c'est-à-dire finalement près de 50%, si je ne me trompe pas, ils sont priés de se couler dans le modèle culturel russe et d'adopter l'histoire, la culture de leurs grands frères russes. Exagéré-je ? Non. Est-ce si différent de ce que la République française a demandé aux Corses, Basques, Bretons, etc. ? Pas tellement. C'est pour ça que les Français et les Russes, sur ce plan-là, se sont toujours bien compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, et vous me corrigez si je dérape, c'est vous qui... Bon. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Union soviétique a elle-même hésité discrètement, ce n'était pas le genre de débat qu'on pouvait mettre sur le passe public, elle a discrètement hésité sur les voies à suivre. Au départ, c'est la révolution mondiale. Donc l'Europe n'est plus une notion, enfin, c'est les bourgeoises, elle est retardataire. Enfin. Et puis, on voit quand même apparaître souvent l'idée qu'après tout, c'est pas parce que les Européens ne sont pas encore passés au socialisme qu'on n'a pas quand même avec eux des solidarités virtuelles qui renaîtront le jour où la révolution aura triomphé en Europe occidentale. Donc je ne pense pas que la notion d'une communauté, disons culturelle ou de destin historique entre l'Europe occidentale et la Russie était totalement évacuée en Union soviétique. Lisez les mémoires qui ont été publiées des ambassadeurs soviétiques en Europe occidentale avant d'être victimes des purges staliniennes. On a publié les mémoires de Maïski qui était à Londres. C'est un document extraordinaire. C'est un journal. C'est un journal qui a été retravaillé ensuite. C'est un journal, en fait. Puis c'est un document extraordinaire. Il est pleinement européen, même s'il y a des discours idéologiques. Il est pleinement européen. On pourrait multiplier les exemples. Il y a également des exemples différents, on est bien d'accord. Mais officiellement, du point de vue gouvernemental, on en reste à la ligne révolutionnaire qui ne... n'accepte pas cette catégorie culturelle. Et puis, en 1954, c'est un an après le rappel à Dieu de Staline, on voit apparaître dans la politique extérieure soviétique, j'ai bien la politique extérieure, pas dans les discussions à l'Académie des sciences, la politique extérieure soviétique, l'idée de l'Europe. C'est la proposition du ministre des Affaires étrangères Molotov à la conférence de Berlin de février ou janvier-février 1954, de créer un système européen de sécurité dont les États-Unis ne feraient pas partie. Alors là, bien entendu, vous avez la manœuvre, bien sûr, couper les Européens de l'Ouest, leurs alliés américains, et contrer l'OTAN. Mais en même temps, est-ce uniquement une manœuvre ? En tout cas, si c'est une manœuvre, elle est allée très loin, parce que c'est le point de départ de ce qui a fini par faire, en 1975, la conférence des Helsinki. Et puis ensuite, à la fin du communisme, en 90, la mise en place de l'OSCE, l'Organisation de Sécurité Collective en Europe, qui est un peu enveilleuse, n'est-ce pas ? Il faut bien le dire. Mais elle est enveilleuse parce qu'après les années 90, il y a eu de nouveaux épisodes de tensions alternés avec des périodes de rapprochement entre la nouvelle Russie post-communiste et l'Europe occidentale. Mais du point de vue de l'historien de la diplomatie et des relations internationales que je suis, à partir de Pierre le Grand, d'Alexandre Ier, toute évidence, à Vienne, enfin, c'est très bien ce qu'il fait, et je dirais, après la période révolutionnaire très dure, en tout cas à partir des années 50, le lien considéré comme nécessaire, certes instrumentalisé, mais c'est toujours pareil, toujours un peu instrumentalisé, entre l'Union soviétique et l'Europe occidentale, était considéré comme essentiel. Est-ce que vous êtes, avec ces remarques...
Oui, ce que je voudrais...
Oui,
alors, si vous permettez, je voudrais dire que c'est tout de même très intéressant ce qui se passe après la Révolution. Est-ce que je voudrais un peu préciser. Bon, Lénine avait pensé révolution mondiale. On a constaté tout de suite qu'elle n'était pas possible, ça c'est absolument certain. Et à ce moment-là, on a construit le socialisme dans un seul pays. Et on peut dire que jusqu'en 1945, aucune chance de se déployer sur l'Europe n'a existé. Il y a bien eu le pacte germano-soviétique, qui est un épisode d'avancée en Europe, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le pacte germano-soviétique n'a été, pour Staline, et ça c'est absolument incontestable, que le moyen de gagner les 2 ans dont il avait besoin. Il avait démoli complètement son pays, il a démoli l'armée soviétique dans les purges, et il savait que il était clair que la Russie ne pouvait pas affronter, l'Union soviétique ne pouvait pas affronter l'Allemagne nazie. Mais il savait que le duel était inévitable, et ça lui permettait de gagner les 2 ans. Bon, il n'a pas gagné les 2 ans, et c'est une certitude. L'opération Barbarossa est arrivée plus tôt qu'il le pensait, et du coup, ça a entraîné les désastres militaires. Donc, ce n'est qu'en 1943 que Staline, et je crois que c'est là qu'il faut regarder le problème européen, c'est le tournant. En 1943, Staline se retrouve dans la Grande Alliance avec les Occidentaux, avec, pour l'Europe, c'est l'Angleterre. Il n'y avait pas de France dans le paysage. Il y avait le général de Gaulle qui était tout de même, qui avait réussi à se glisser dans le paysage. Mais enfin, il s'est glissé un petit peu subrepticement, mais avec beaucoup d'énergie. Et je dirais qu'il a rendu un service énorme à la cause européenne à ce moment-là, dès ce moment-là. Et au fond, le tournant, c'est à la conférence de Téhéran. Car à la conférence de Téhéran, c'est la première fois que Churchill, le président des États-Unis et le chef de l'État soviétique, se retrouvent ensemble pour essayer de comprendre comment on va aller de l'avant et ce qu'on va faire. Et Churchill, qui était un homme extrêmement conscient de la situation européenne, qui était très inquiet de l'avenir, parce que lui, il connaissait l'histoire européenne. Les Américains n'en avaient pas la moindre idée, mais Churchill le savait. Churchill a essayé de sonder les intentions de Staline pour l'après-guerre. Et Staline est resté tout à fait muet. Enfin, il a dit, on verra après la guerre. Tout ça n'est pas... Il n'y a pas de raison d'en discuter. On verra par la suite. Gagnons la guerre d'abord. D'abord, ouvrez un second front. Ce que les Anglo-Américains ne s'apprêtaient pas du tout à faire en Europe, parce qu'ils avaient d'autres priorités. Et ça laissait Staline, dans la situation dans laquelle il s'est trouvé en 1945, il faut tout de même savoir, en mesure de se poser en véritable vainqueur de la guerre, parce qu'il avait supporté le poids de la guerre beaucoup plus que les autres, ça c'est absolument évident. Bon, on a l'habitude de raconter que le sort de l'Europe a été décidé à Yalta, où 3 aimables responsables, et même qu'à Téhéran, se sont partagés comme ça l'Europe, ce qui est une plaisanterie. Ils ne sont rien partagés du tout, parce que les armées de Staline étaient arrivées presque jusqu'aux portes de Berlin. Ils vont arriver très vite à Berlin. Yalta, c'est février 1945. On n'est pas loin de la prise de Berlin. Et la réalité, c'est que, pour la première fois, là, les guerres napoléoniennes, Alexandre Ier était arrivé jusqu'à Paris, mais c'est la première fois que la Russie vraiment occupe une grande partie de l'Europe. Et le problème pour Staline a été, je crois que c'est ça, c'est la vision qu'il a eue. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Jusqu'où on pouvait aller en Europe? Jusqu'où on pouvait transformer l'Europe? Il aurait pu aller plus loin. C'est-à-dire que les pays d'Europe occidentale étaient minés par des partis communistes qui avaient joué un rôle considérable la plupart durant la guerre, et le problème, je dirais, de la déstabilisation et de la soviétisation se posait pour l'Italie, pour la France, pour la Grèce, sans aucun problème. Il a décidé de s'arrêter, ce qui est tout à fait remarquable. Et ça aussi, c'est une conception très intéressante, parce qu'on revient à la question de tout à l'heure. Les pays où l'armée soviétique était installée, quelle aurait l'attitude de transformer? Et Staline avait une phrase, il disait, là où est l'armée, on peut transformer complètement la société. Bon, non mais c'était sa conception. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au-delà? Parce qu'il y a, et je crois qu'il y a véritablement une volonté de créer une autre Europe, une Europe à la soviétique, une Europe dominée parce que Staline s'est identifié à la Russie toujours, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qu'il a créé à ce moment-là, et ce n'est pas la conférence de Yalta, c'est tout simplement la progression des armées soviétiques. Là où il était solidement installé, parce qu'il n'avait pas besoin d'aller manipuler quoi que ce soit, on ne pouvait plus le déloger, il créait une Europe différente. L'Europe, je dirais, sous autorité russe, un espace. Vous parliez de messianisme. Le messianisme a commencé par là. D'abord, il y avait beaucoup de pays qui étaient slaves là-dedans, d'autres qui ne l'étaient pas, mais ça créait cet espace. Bon. Et qui a pris d'ailleurs, des formes diverses qui sont extrêmement intéressantes. On voit très bien surgir l'idée, toujours, qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe ? À partir de 1954. En 1954, Staline est mort en 1953. Il occupe tout l'Est européen. Il y a un pays qui l'occupe, mais qu'il n'a pas transformé, c'est l'Autriche. Que fait Staline ? Que fait son successeur ? Ses successeurs, ils évacuent l'Autriche. Personne ne s'attendait. Enfin, les Autrichiens se sont dit... Les armées soviétiques sont là, elles sont là pour l'éternité, c'était évident. Déjà, ils étaient assez émerveillés de ne pas avoir été soviétisés ou communisés. Ils évacuent l'Autriche. C'est un pas vers une Europe de la coexistence, vers des pays qui deviennent une avancée par d'autres moyens de progression que par le contrôle total.
Et par la neutralisation.
Absolument.
Comme ensuite pour la Finlande. L'Allemagne et pour finir de l'Allemagne fédérale. C'était le but probablement derrière la conception de 1955.
Évidemment. Oui. D'ailleurs, je dois dire qu'on le sait très bien que l'idée de l'Allemagne réunifiée est une idée que les Soviétiques avaient avancée dès 1953. Elle était en l'air. C'était évidemment par. Il y avait la transformation par d'autres moyens, la première étape, je dirais. Parce qu'au fond, il y a un renversement historique, un double renversement historique. De 1917 à 1945, l'Union soviétique apparaît comme le modèle pour les pays européens. On lui offre la chance d'entrer dans la grande période révolutionnaire. Et après tout, relisez Sartre, etc., tous ces gens qui disaient qu'après... Sartre, plus tard, a eu peur et il a dit qu'est-ce qu'on fait si les chars soviétiques viennent à Paris. Mais pendant des années, il a trouvé ça extrêmement bien et toute une intelligentsia trouvait ça épatant. Romain Rolland disait c'est la grande lueur à l'Est. Bon. Donc la première étape, ça a été véritablement, tout simplement, d'être un modèle, l'inversion du modèle idéologique. Ça n'était plus la fascination européenne, c'était la fascination soviétique. Et elle a très bien marché. Enfin, il suffit de lire toute une littérature pour le savoir. La seconde étape, c'est la création de cette Europe véritablement soviétisée, mais dominante, unifiée par le système, par le communisme. La troisième étape, c'est avec la coexistence pacifique en 1956, avec le 20e congrès, la transformation, je dirais, d'une vision du monde coupé en deux par l'idée que ces deux mondes peuvent coexister, qui a progressé dans les années 70, vers une vision plus... Ce qui conduit vers la conférence d'Helsinki, vers l'idée qu'on peut véritablement...
Vision plus structurelle.
Absolument.
Pas seulement la coexistence, mais des structures communes. Absolument. Hein, pas de plus, tout à fait.
Avec deux choses. D'une part, le premier acquis de la conférence d'Helsinki, qu'est-ce que c'était ? C'était que les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'y a pas eu de traité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, ces frontières corrigées en Pologne, en Allemagne, etc., sont des frontières qui sont... Alors, il y a deux versions, c'est très intéressant.
Ah, oui.
Pour les Occidentaux, elles sont inviolables.
Eh oui.
Et pour les Russes, elles sont intangibles.
Eh oui.
C'est-à-dire qu'en principe, on ne peut pas tout simplement, dans la conception occidentale, Helsinki, ça prévenait les Soviétiques d'une attaque contre un pays. Dans la conception soviétique... Je dirais le russe, il faut lire le texte russe. Dans la conception russe, intangible, ça veut dire qu'elles sont là pour l'éternité. En d'autres termes, cette Europe sous domination soviétique, cette Europe soviétisée, elle était définitive, c'était pour l'éternité. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Bon, et il y avait la troisième corbeille qui a tout déstabilisé parce qu'elle crée justement ce monde de relations, de contacts.
C'était les droits humains et surtout la liberté d'information, de circulation des idées et des hommes. Voilà. C'est la troisième corbeille voulue, d'ailleurs suggérée, voulue et poussée par les diplomates français.
Absolument.
Que nous avons connus.
Et qui a été très efficace parce que ça, contrairement à l'idée des soviétiques, il se trouve que c'est cela que leurs administrés de cet espace européen, qui était un espace définitivement dans l'esprit soviétique, qui était définitivement acquis. Dans cet espace européen, ce qui a été entendu, c'était la troisième corbeille, c'est-à-dire qu'il y avait une communication entre les deux mondes qui allait se développer et qui leur permettait d'une certaine façon de rejoindre et les critères européens et le monde européen. Ça dure, on peut dire que il y a une progression qui s'opère. Quelqu'un qui retire les bénéfices de ça, c'est Mikhail Gorbatchev qui va plus loin, qui développe l'idée d'une maison commune européenne. Et nous passons à un autre stade, ce qui est extrêmement intéressant. Parce que si vous voulez, la Russie, ce que je voulais vous faire comprendre par l'introduction, la Russie a toujours regardé l'Europe. Et tout d'un coup, elle se pose en pays qui va unifier l'Europe, ce qui est tout à fait autre chose. Et il a été soutenu par le chancelier Kohl. Le dialogue entre les deux Allemagnes qui s'instaure, c'est la première étape de cette affaire. Et le général de Gaulle avait pressenti ça. Il estimait que ce dialogue était nécessaire. Il a joué un rôle considérable dans l'affaiblissement du système soviétique. Ça, moi, je crois qu'il faut lui donner ça. Mais c'est tout de même la Russie qui est porteur d'un projet européen avec Gorbatchev. La maison commune européenne, c'est une idée qui avait été esquissée assez tôt déjà, mais que le président Mitterrand a reprise et qui indique un autre horizon. C'est plus la Russie, c'est plus les dominations, mais c'est une maison commune européenne où l'espace unifié reste intact, sauf que Gorbatchev l'a défait. Alors, tout ça s'achève par la fin de l'Union soviétique. Ça a tué l'Union soviétique, il n'y a aucun doute là-dessus. Et s'est posée la question pour le pays qui sortait de là, la Russie renaissante, la nouvelle Russie, elle s'est trouvée en face de l'Europe. Et la question qui s'est posée, elle, c'est qu'est-ce qu'elle est en face de l'Europe? Alors là, je voudrais dire très clairement, pour les Russes, c'était une obsession. Ils ont eu le sentiment, il suffit, je dirais, de lire tout ce qui s'est écrit dans ce pays, ils ont eu le sentiment que c'était comme avec la fin des Mongols, c'était l'heure de renouer avec l'Europe. C'était le moment où tout devenait possible. Ça explique d'ailleurs pourquoi le premier président russe, mais Gorbatchev, tant déversa la maison commune européenne, c'était ça. Et son successeur, le président Eltsine, la première chose qu'il a dit, il s'est précipité, il a dit « nous sommes des Européens, nous allons rejoindre l'Europe ». Bon, d'ailleurs, Vladimir Poutine a dit la même chose. C'était une obsession. Bon, alors, elle est ambiguë en ce sens, je voudrais le dire, elle est ambiguë dès le départ parce que ce que la Russie entendait, c'était rejoindre l'Europe en restant elle-même. Ça, il n'y a pas de doute. Enfin, d'une certaine façon, il ne s'agissait pas de s'incorporer dans les 10 premières années, dans les années de Boris Eltsine avait une expression très, très impressionnante. Il disait « Moi, j'ai grandi dans le système soviétique. Je ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Je ne sais pas ce que c'est que l'économie de marché. Il faut qu'on m'explique. Je ferai ce qu'on me dit. » C'est-à-dire qu'incontestablement, il aurait conduit son pays très loin s'il avait pu. Mais les circonstances n'y sont pas prêtées. La déconstruction d'un système totalitaire qui a duré trois quarts de siècle est une entreprise absolument monumentale qui exigeait certainement une génération ou deux générations. Elle n'est pas achevée, c'est très compliqué. Mais au fond, il y a eu une chance européenne qui a existé à ce moment-là et puis qui s'est effritée. Et c'est ça la question intéressante. Pourquoi est-ce que ça s'est effrité? Pourquoi est-ce que l'Europe et la Russie se regardent en chien de faïence, même si, je dirais, notre président de la République manifestement pense qu'avec la volonté, l'heure est venue d'essayer de répondre à ce problème? Je crois qu'il y a une incompréhension, et c'est toujours dans les consciences collectives que se pose le problème. C'est dans la mémoire historique. Il y a la mémoire historique, c'est d'abord la mémoire d'une supériorité européenne que l'Europe a toujours ressentie et par conséquent d'une Russie qui doit apprendre de l'Europe. C'est d'ailleurs tout dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand une pensée s'est développée en Russie sur les rapports avec l'Europe, la question que les historiens se posent, c'est est-ce que nous devons tout apprendre de l'Europe? Nous avons copié son modèle de développement, mais est-ce qu'on doit, pour rattraper, mais est-ce que nous devons tout apprendre ou est-ce que ce que nous avons n'est pas aussi bon? Et ça, c'est un... Bon. L'Europe est convaincue qu'elle offre un modèle, non seulement politique, mais un modèle, je dirais, culturel, un modèle de vie de civilisation quotidienne, que la Russie doit apporter. Et le malentendu tient précisément, alors là je voudrais le dire, au fait que l'Europe s'est trouvée en face, à la fin du communisme, d'une part de la Russie, et d'autre part des pays européens qui se sont décommunisés, mais dont le destin n'avait pas du tout été le même, leur histoire n'était pas la même. Leur passé, ils avaient été beaucoup plus... Un pays comme la Pologne n'est pas un pays qui était, qu'on peut comparer avec la Russie. Ce sont des pays d'abord qui n'ont eu que deux générations de communisme et pas trois, c'est-à-dire c'est tout à fait différent. De plus, le communisme leur a été, et la domination russe leur a été imposée par l'armée soviétique. Ça rend pas, ça ne vous ça ne conduit pas à adopter quoi que ce soit. Bon, ils étaient prêts à s'incorporer dans le modèle européen, encore que ce n'est pas tout à fait évident. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les démocraties libérales. Enfin, c'est bien évident que ça n'a... De prime abord, on a cru que tout le monde optait pour le modèle européen, et la Russie, d'une certaine façon, a servi de repoussoir à cet enthousiasme européen des pays pour qui l'Europe, c'était d'abord l'émancipation de l'Union soviétique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, le malentendu, il tient. Et les Russes, vous avez évoqué tout à l'heure, à la fois un complexe d'infériorité et une sorte de, je dirais, de frustration. C'est la grande question, je reviens à la question de Pierre Legrand. Est-ce que nous n'avions pas en nous les ressources pour véritablement évoluer avec ce que nous étions sans abandonner notre personnalité? Vous avez évoqué la question des religions. Il est certain que la Russie s'est accrochée, l'orthodoxie a été un des piliers de l'évolution de la Russie. Et ça l'est aujourd'hui encore, et d'une certaine façon, ça détermine non pas le comportement des sociétés, mais ce que le pouvoir considère que les sociétés doivent accepter comme norme de comportement personnelle et collective. Les Russes ont été souvent fascinés par les églises et les souverains se sont posés la question. Pierre le Grand détestait l'orthodoxie et la première chose qu'il a faite, c'est de la mettre sous tutelle. Il a aboli le patriarcat parce qu'il a considéré que c'était le souverain qui détenait, je dirais, le pouvoir sur les consciences et pas l'église. Alexandre Ier semble avoir été tenté par la religion catholique.
Le cru d'honneur le poussait dans ce sens, on le poussait dans ce sens, dans son entourage.
Absolument. Mais c'est une question, le poids de l'orthodoxie dans le mode de gouvernement étatique a toujours été une question. Il a été maintenu parce que c'était une église nationale, parce que l'orthodoxie, c'est le royaume de César, on ne mélange pas, et il n'y a pas de Vatican. Il n'y a pas de royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des églises nationales, ce sont des églises autocéphales. Et je crois que c'est pour ça que les souverains ont considéré qu'on pouvait construire autour de l'orthodoxie. Et aujourd'hui, pourquoi le pouvoir a reconstruit véritablement la société en faisant de l'orthodoxie, de l'église, un pilier de l'État? Parce que précisément, c'est une église autocéphale, c'est l'église qui est supposée être porteuse d'une certaine tradition nationale, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça fait, avec l'Europe, une ligne de clivage absolue, on ne comprend pas. Je veux dire que nos dissentiments sur les droits de l'homme, sur un certain nombre de droits qui ici prennent une place prééminente dans nos existences, cette ligne de clivage, elle est évidente. C'est l'Église qui dit ce que doit être la morale individuelle, c'est l'Église qui définit les comportements. Et ça, c'est là qu'il y a un malentendu, car la Russie est sortie de la longue période communiste. Elle a eu cette longue période de marche vers l'Occident, elle est sortie de la période communiste en se précipitant vers l'Occident, et tout de même s'est posé pour elle le problème de son identité. Et c'est là que je voulais en revenir, je crois que c'est là-dessus qu'on pourrait terminer. L'identité de la Russie est une identité sur laquelle toujours on s'interroge dans ce pays. Pour nous, c'est une identité un peu baroque qui n'a jamais complètement achevé sa mue occidentale, car ce que nous demandons aux Russes, c'est d'avoir une identité européenne totale. Pour les Russes, leur problème, c'est de savoir quelle part de leur identité personnelle ils peuvent conserver. Les apports de l'histoire, le rôle de l'Église, tout ce qui les a marqués. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, on au moment où on a commencé, il y a 15 ans, quand on a élargi l'Europe, on n'a pas imaginé que ces problèmes qui commençaient à surgir allaient déborder sur des pays qui se sont précipités dans les bras de l'Europe sans la moindre hésitation. Et ils ressurgissent parce qu'il y a aussi une longue histoire commune, une histoire d'une part, d'une autre part, d'une autre Europe.
Écoutez, si je peux me permettre, d'abord, si on fait une liste de façon très sobre et objective, en spécialiste de relations internationales, pas de la Russie même, on fait la liste des gouvernements européens de l'Union européenne qui sont actuellement en bon terme avec Moscou. Mais il y en a beaucoup. C'est ce que vous disiez, il y en a beaucoup. Bon. D'autre part, certains pays d'Europe de l'Est, je les connais mieux ou moins mal, disons, que d'autres. Dans le cas polonais, j'ai toujours été extrêmement frappé depuis que j'ai visité ce pays à partir de la fin des années 80. Après la fin du communisme, les classes dirigeantes, au sens du terme très large, bon, sont en général très méfiantes à l'égard de la Russie. Les classes populaires, je dis en général, pas absolument, bon, les classes entre guillemets populaires, il m'a semblé que c'est parfois extrêmement différent et que l'idée existe que, pauvres, les malheureux Russes, ils ont des dirigeants épouvantables, ils ont toujours eu des dirigeants épouvantables et qu'en Pologne, ça n'a pas toujours été beaucoup mieux. Alors, non, on a au moins ça en commun, on est le victime de classes dirigeantes. Je mets à leur place, je ne reprends pas ça à mon compte, bien entendu, de classes dirigeantes qui ne sont pas l'expression d'une réelle volonté populaire. Sans compter que la période soviétique a laissé au sein même de l'intelligentsia polonaise des clivages, des traces. Quand on a un colloque à Varsovie ou à Poznan, par là, un colloque international avec des Anglais, des Français, des Allemands, certains sujets, tout d'un coup, nos collègues polonais commencent à parler entre eux. Et bien entendu, nous, on ne comprend plus rien. Mais on sent que là, ils commencent à régler des comptes, n'est-ce pas ? C'est très intéressant à suivre. Je conseille donc, je pense que vous êtes d'accord, la plus grande prudence quand on a cette idée, en général, Rome de l'Est, anciennement soumise à la domination soviétique, et maintenant comme un bloc, très hostile à la Russie actuelle. C'est complexe. Le seul pays d'Europe, jusqu'à maintenant, à avoir soutenu l'initiative récente du président Macron, que vous avez rappelé en élection de la Russie, c'est la Finlande, qui pourtant n'a pas eu à se féliciter d'Union soviétique, Dieu sait. Donc tout ça doit être analysé avec la plus grande précaution, mais si vous en êtes d'accord, nous allons peut-être prendre quelques questions.
Oui, je crois que ce que nous ne mesurons pas assez, c'est à quel point la question de l'identité des peuples, qui est fondée sur l'histoire, enfin, à quel point elle trouble des peuples. Parce que ces peuples ont une histoire extrêmement tourmentée, ils ont été dominés, tout ce que l'on veut, et ils se posent beaucoup plus la question de leur identité qu'ils ne se seraient posés en 1945. Et ça complique leur rapport avec l'Europe.
Et je dirais même, si vous me permettez, que je suis très frappé dans mes colloques, etc., qui ont beaucoup tourné sur 1919, la Première Guerre mondiale, puis les traités de 1919, il y a une réactivation de ces problèmes d'identité nationale. On pouvait s'entendre entre collègues universitaires, avec des collègues polonais, serbes, hongrois, roumains, pas forcément toujours le même point de vue, mais on pouvait parler très utilement et enrichir nos connaissances réciproques. Dernières expériences, tout à fait entre nous, mais toutes récentes, hein, depuis un an ou deux, sont plus ou moins positives, hein, et plutôt moins que plus. Il y a un changement profond qui, d'ailleurs, s'est traduit aussi dans les urnes dans ces pays-là, hein, ça c'est sûr.
Permettez-moi de dire quelque chose. Pendant des siècles, l'Europe occidentale, et je dirais la France d'abord, ont été un modèle dans toute cette partie de l'Europe, jusqu'à Vladivostok. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit copier le modèle ? On leur a dit, et ils ont toujours considéré que copier le modèle européen et des pays les plus avancés d'Europe, c'était la voie vers l'acceptation par l'Europe d'abord, et vers le progrès. Et aujourd'hui, la question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'ils doivent tout copier ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de leur civilisation propre qui doit être intégré dans leur adhésion à l'Europe. Et ça, c'est une question fondamentale. Et c'est la question, je dirais, qui se pose aujourd'hui avec la Russie. Et ce qui me rend, je dis, très optimiste, c'est que je pense que le président Macron a compris ça.
Oh oui, ça c'est
et c'est très important, parce qu'il faut que quelqu'un, du côté européen, comprenne que c'est plus compliqué que de dire aux gens, bah, écoutez, nous sommes... Vous voulez être européen, bah, il faut faire comme nous. L'histoire, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'elle ne s'est pas déroulée pour tous les peuples de la même façon. Voilà.
Nous avons un peu de temps pour une ou deux questions au plus, parce qu'il est quand même tard et vous rentrerez difficilement chez vous à travers les émeutes. Enfin, je plaisante, hein, je plaisante. Mais s'il y avait une question pressante, nous ne censurons personne. Ah ben écoutez, c'est merveilleux. C'est comme au Soviet suprême, il n'y a pas de questions, figurez-vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.